Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, les agressions sexuelles d'enfants et adolescents depuis 70 ans au sein de l'Église, phénomène massif et systémique, selon la Commission Sauvé.
L'enquête menée conduit à estimer à 216 000 le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux, ou des religieux.
216 000 victimes, et si l'on ajoute les agressions commises par des laïcs, on arrive au nombre de 330 000. Les premiers mots du président de la conférence des évêques après ce choc.
Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de religieux, de religieuses, ou d'autres personnes dans l'Église, j'exprime ma honte, mon effroi, mon désir en ce jour est de vous demander pardon.
La Commission appelle l'Église à reconnaître sa responsabilité et indemniser. Le secret de la confession ne peut plus couvrir les crimes. Nous y consacrerons une longue page de ce journal. Et à 13h30, notre invité est l'un des membres de la Commission, Alain Cordier. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions. Avec les Afghanes, journée spéciale sur France Inter, dans le 13-14, à Kaboul, portrait de Marcia. Elle aimerait pratiquer son sport, le basket, les talibans ne veulent pas. Et notre invitée Victoria Fontan, la vice-présidente de l'université américaine de Kaboul. Dans l'actualité encore, prise d'otage ce matin à la prison de Condé-sur-Sarthe, au moins un surveillant retenu. Manifestation pour des hausses de salaire en France. L'hôtellerie-restauration propose des hausses de 6 à 9%. En plein coup de froid avec l'Algérie, l'appel à l'apaisement d'Emmanuel Macron sur France Inter. Et le prix Nobel de physique pour des experts en modélisation du changement climatique en particulier. En ce jour de Nobel, le physicien Christophe Galfard est dans C'est une chanson. Il choisit l'artiste indien Zakir Hussain. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
C'est une religion qui a placé un enfant au cœur de son message. C'est une institution, l'Église catholique, qui a eu un rôle central dans la société et dans l'éducation jusqu'à ces dernières décennies. C'est une page d'histoire qui s'est écrite ce matin. Après 2 ans et demi de travail, la commission dirigée par l'ancien vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, a rendu ses conclusions sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Depuis 1950, 216 000 personnes mineures ont donc été agressées par des religieux ou religieuses. Si l'on ajoute les laïcs qui travaillaient pour l'une des institutions catholiques et ont eux-mêmes commis des agressions, on arrive au nombre effarant de 330 000 victimes. L'intervalle de confiance est de plus ou moins 50 000, taux de fiabilité 95%. Les chiffres ne tiennent pas compte des personnes aujourd'hui décédées. Il y a les chiffres et il y a les mots dans les conclusions de la commission. Phénomène massif, caractère systémique, déni flagrant et même plus grave pendant de très longues années. Jean-Marc Sauvé.
Depuis 70 ans, un point majeur, c'est jusqu'au début des années 2000, une indifférence profonde, une indifférence totale et même cruelle à l'égard des victimes. Les victimes ne sont pas crues, ne sont pas entendues. On considère, quand elles sont entendues, qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé. Et très exceptionnellement, des indemnisations sont envisagées, mais quand elles sont envisagées, c'est en contrepartie du serment de ne jamais révéler ce qui s'est produit.
Jean-Marc Sauvé appelle l'Église à reconnaître sa responsabilité. Entre 2900 et 3200 prêtres ou religieux prédateurs. Et l'on ne peut pas considérer, dit le président de la Commission, que le problème est derrière nous. Autrement dit, il y a encore aujourd'hui des agressions. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Rémi, avec Alexandra Bergel, vous êtes en direct de l'avenue de Ségur à Paris où se tenait la conférence de presse. La Commission formule une série de recommandations et d'abord celle-ci, il faut indemniser les victimes.
Oui, car sur la base de ce constat que vient de dresser Jean-Marc Sauvé, un nombre colossal de victimes et d'auteurs d'abus sexuels, l'Église, dont le fonctionnement a permis de couvrir, de minimiser les abus subis, le président de la Commission a été très clair. Face à l'Assemblée, l'Église doit réparer le mal qui a été fait pour reconnaître les victimes, mais aussi pour les indemniser. La Conférence des évêques de France a promis une contribution financière au printemps. Pour la Commission, un forfait n'est pas acceptable. Ça ne suffira pas. En recevant le rapport, le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, s'est contenté de demander pardon.
Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres, de religieux, de religieuses ou d'autres personnes dans l'Église. J'exprime ma honte, mon effroi, ma détermination à agir avec elles pour que le refus de voir, le refus d'entendre, la volonté de cacher ou de masquer les faits, la réticence à les dénoncer publiquement disparaissent et croyez que je suis le porte-parole des évêques.
Cette volonté d'agir devrait concerner la question des indemnisations, même si elle fera débat. François Deveau de l'association de victimes lyonnaises La Parole Libérée a pointé du doigt à la tribune le clergé. Vous devez payer pour tous ces crimes, a-t-il scandé. Non pas quelques millions, mais des milliards, dit-il. Comment l'Église pourra-t-elle financer l'indemnisation ? Éric de Moulin-Beaufort admet qu'il n'a pas de réponse pour l'instant.
Rémi Brancato, au-delà de la question des indemnisations, la Commission demande à l'Église de se réformer profondément.
Et la Commission est très claire, si les abus ont été couverts, c'est un problème systémique et l'Église doit revoir son fonctionnement. 45 préconisations qui satisfont Olivier Savignac, victime d'abus dans l'enfance et président de l'association Parler et Revivre.
La CIAS va très loin avec ces quatre points, donc la réformation du droit de l'Église, la réformation de la gouvernance de l'Église, la formation et derrière aussi faire le constat que l'Église s'est servie du sacré, des sacrements, comme arme du crime. C'est la démarche nécessaire. On touche à un point fondamental du droit, qui est celui que, non, la loi divine n'est pas au-dessus du droit pénal.
La Commission demande notamment la levée du secret de la confession, considéré comme un secret professionnel. Il ne doit plus permettre de taire des abus sexuels. La confession a d'ailleurs régulièrement été utilisée comme outil d'abus, a précisé Jean-Marc Sauvé, un dévoiement du rituel. Jean-Marc Sauvé estime aussi que l'Église doit changer ce qu'elle dit de la sexualité. Une conception excessivement taboue du sujet entraîne des points aveugles, l'a-t-il dit, sur des agissements graves.
Rémi Brancato avec Alexandra Bergel en direct de l'avenue de Ségur à Paris, où la commission sur les abus dans l'Église a rendu ses conclusions ce matin. L'un des membres de cette commission sera notre invité à 13h30, Alain Cordier. Toutes vos questions sont les bienvenues au 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité, encore une prise d'otage ce matin à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Un surveillant est encore retenu.
Oui, cela fait près de 3 heures maintenant que ce détenu de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne a agressé deux surveillants, un homme et une femme avec une arme blanche. Lui est blessé à l'œil droit, elle a été relâchée il y a une heure. Des négociations sont en cours, une équipe régionale d'intervention et de sécurité de Rennes s'est déployée. Le RAID a également été placé en alerte. On sait que le détenu est un condamné à perpétuité pour meurtre, viol, acte de barbarie. Sofiane Rasmouk a été surnommé le monstre de Colombes dans les Hauts-de-Seine, diagnostiqué psychopathe lors de son procès aux assises en 2013 pour la façon dont il s'était acharné sur ses victimes. Pour les surveillants de cette maison centrale normande très difficile, c'est une nouvelle attaque au couteau. Il y en avait eu deux autres en 2019. En mars, c'est un détenu radicalisé, Michael Chiolo, qui s'en était pris à deux surveillants avec une lame amenée par la compagne du détenu, elle-même tuée lors de l'assaut du RAID. Et puis enfin, en juin 2019, un autre détenu, Francis Dorfer, condamné pour vol avec violence, puis pour meurtre d'un co-détenu, avait pris là encore, deux surveillants en otage pendant plusieurs heures.
Les questions sociales, celles des salaires en particulier, doivent-elles occuper une place centrale dans le débat à 6 mois de la présidentielle ? C'est le pari d'une série de syndicats et organisations de jeunesse qui appellent à la grève et à manifester aujourd'hui. 200 rassemblements prévus en France à l'initiative de la CGT, Force Ouvrière, Solidaire et la FSU. Parmi les rassemblements du matin, celui de Marseille, suivi par Olivier Martoc.
Ça fait quasiment 2 ans maintenant que les salariés du public et du privé subissent des attaques incessantes de la part de ce gouvernement qui a dit au départ on remercie les premiers de cordée et qui en fait n'arrête pas d'agresser tout le monde, les territoriaux, remettre en cause les temps de travail, ce qui a expliqué la grève, entre autres des éboueurs, mais c'est vrai aussi dans les hôpitaux, tant qu'on voit bien que ce gouvernement n'a pas du tout envie de mener une politique sociale et qui veut s'attaquer et détruire tous les acquis. René Salle, membre du bureau de l'UD, Info des Bouches-du-Rhône.
Chancelin, retraité, mon pouvoir d'achat est grévé depuis des années, quoi. Depuis 2014, on prend des misères à chaque fois. Cette année encore, on va prendre 0,4% et ça comble pas la hausse de la vie.
Barbara, FSU. Notre point d'indice est bloqué depuis des années. Aucune considération. Moi qui suis enseignante, un ministre qui nous pond des réformes continuellement, sans concertation, des classes surchargées. Donc oui, de la colère, beaucoup de colère.
Et on mesurera mieux ce soir l'ampleur des mobilisations. En tout cas, la question des hausses de salaire est bel et bien sur la table. Négociation en en cours dans différentes branches professionnelles et l'un des secteurs où la pénurie de main-d'œuvre est particulièrement criante, la restauration, fait un pas. L'UMI, principale organisation de l'hôtellerie-restauration, propose aujourd'hui des hausses de salaire de 6 à 9%, Maxime Deps.
Un geste qu'il appartiendra au syndicat de qualifier de suffisant ou non. En tout cas, c'est un pas significatif sur le papier, du moins, que semble faire l'UMI, le principal organisme représentatif de la profession. Mais à culpa ou presque de son porte-parole Thierry Grégoire ce matin, on a ce qu'on mérite aujourd'hui. Si on peine à recruter, c'est que la grille de salaire pour le secteur est clairement obsolète. Le dernier accord signé avec les syndicats remonte à 3 ans. Le Covid n'a rien arrangé, mais attention, cela ne veut pas dire que les employés sont sous-payés, précise l'UMI. C'est illégal et des primes leur sont versées pour respecter à minima le montant du SMIC. Tout ça n'empêche pas bien sûr d'avoir affaire parfois, je cite, à des professionnels indélicats, une minorité selon les représentants patronaux du secteur qui sont aussi prêts, en guise de bonne foi, à mettre sur la table d'autres propositions comme la possibilité d'un 13e mois ou celle d'accorder un week-end de libre par mois à leurs salariés. Quand on sait l'importance des samedis-dimanches dans le secteur de la restauration, ça semble là aussi sur le papier être une concession importante pour tenter de rendre au métier une certaine attractivité.
Cet accord-là, négocié, signé, n'est pas appliqué à 100%. Alors la France menace de prendre des mesures de pression sur le Royaume-Uni. Ce sont des propos du secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, ce matin, 8 mois après le Brexit. Il s'agit de la pêche. Clément Beaune brandit notamment la menace énergétique. Les îles anglo-normandes dépendent de l'Europe pour une partie de leur approvisionnement énergétique. La semaine dernière, donc, des dizaines de pêcheurs français n'ont pas obtenu le renouvellement de leur licence pour travailler dans les eaux britanniques ou anglo-normandes. Alors maintenant, quelles mesures de rétorsion ? Dominique Thomas est patron armateur dans les Côtes d'Armor. Il préside l'organisation professionnelle pour la mer, la Cobre Nord.
Bah, on est en attente. On a plusieurs cartes en main quand même pour leur mettre de la pression. Là, il y a des bateaux de Jersey, par exemple, qui livrent en Normandie. Donc les bloqués. Il y a l'électricité que la France fournit à Gervais et il y a l'importation. D'ailleurs, la ministre de la Mer avait mis un coup de pression déjà qu'elle voulait faire couper l'électricité et tout, revoir un peu tout. Et donc, bien sûr, nous, on est favorables, nous. On a plusieurs bateaux qui n'ont pas accès à la ressource et c'est mettre des entreprises en péril. Qu'on ait accès à la ressource et puis qu'on nous laisse travailler. De toute manière, si l'État français ne met pas la pression ou l'Europe, je vois pas qui est-ce qui pourrait la mettre, quoi. C'est à eux de soutenir la pêche française aussi, quoi.
Propos recueillis par Manuel Ruffez. Ailleurs en mer et dans le monde entier, sous l'effet de la surpêche, mais plus encore du dérèglement climatique, les coraux disparaissent à vitesse grand V, 14% en moins entre 2009 et 2018, selon un rapport très complet publié aujourd'hui. 11 700 km² de coraux ont disparu dans le monde. C'est presque la superficie de toute l'île de France. C'était il y a un mois et demi, au cœur de l'été, quand l'histoire revenait comme un boomerang. France Inter, journal de 8h, le lundi 16 août.
L'Afghanistan définitivement aux mains des talibans. Fin de partie à Kaboul, où les islamistes ont pris leur quartier dans le palais présidentiel ce matin. Pour l'instant, pas de combat.
Depuis, 123 000 Afghans ont été évacués de leur pays. La France en a accueilli 2 618, selon les décomptes très précis des autorités. La moitié sont des femmes, mais des dizaines de milliers d'entre elles sont restées bloquées dans leur pays. Avec les Afghanes, c'est une journée spéciale aujourd'hui sur France Inter. Depuis ce matin, vous entendez témoignages, récits, portraits, des pistes aussi pour aider, ne pas rester impuissant, des prises de parole politiques, à commencer par celle du président de la République qui était l'invité de France Inter ce matin. Et dans ce journal de 13h, deux femmes prennent la parole. Bonjour Victoria Fontan.
Bonjour.
Vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan. Vous êtes française, rentrée d'Afghanistan en France le 21 août. Après avoir tout fait pour exfiltrer le plus d'étudiants et étudiantes possible, vous vivez aujourd'hui à Nice. Vous allez nous raconter dans un instant quelle est la situation aujourd'hui. D'abord, un premier témoignage d'une Afghane qui est restée sur place. Parmi les nombreuses restrictions qui touchent les femmes en Afghanistan depuis le retour des talibans, elles ne peuvent pas pratiquer le sport. Ce n'est pas nécessaire pour les femmes, selon les talibans. Bonjour Valérie Crevin.
Bonjour.
Valérie, vous étiez tout récemment en Afghanistan et vous avez rencontré Marzia. Elle jouait dans le club national de basket de Kaboul. Vous l'avez rencontrée la semaine dernière.
Oui, elle s'entraînait 2 fois par semaine dans un gymnase de la capitale afghane. Sur des photos, on la voit soulever une coupe à côté de son entraîneur, un homme donc, ce qui est aujourd'hui impensable sous les talibans. Aucune partie de son corps n'est visible. Ses jambes sont recouvertes d'un collant noir, ses bras d'un t-shirt à manches longues. Marzia et une partie de ses coéquipières avaient l'habitude de porter un voile pendant les matchs. Aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi fois son club est fermé car elle respectait les consignes que les talibans veulent imposer aux sportives pour qu'elles donnent une image en conformité avec leur vision ultra rigoriste de l'islam.
C'est clairement une discrimination entre les hommes et les femmes. Le gouvernement taliban n'autorise pas les filles à faire du sport. Nous demandons à toutes les organisations d'aider les filles à pratiquer les sports qu'elles souhaitent.
Ne plus jouer au basket est une épreuve pour la jeune femme qui veut continuer de progresser.
Comme nous n'avons pas d'endroit où aller, je m'entraîne dans la cour de ma maison. Je n'ai pas de panier de basket, mais je fais des dribbles avec mon ballon. Je regarde également les matchs des Jeux Olympiques ou de la NBA américaine.
Depuis que les talibans ont imposé des restrictions aux sportives afghanes, Marcia ressent une profonde tristesse.
L'un de mes plus grands rêves était de réaliser un exploit pour ma famille et pour mon pays grâce au sport, afin de montrer au monde mon drapeau et montrer aussi que les femmes afghanes peuvent être fortes et atteindre leur but.
Alors quand elle évoque son drapeau, Marcia ne pense pas à celui des talibans, un drapeau blanc frappé de la shahada, la profession de foi des musulmans.
Non, mon drapeau, c'est celui avec les trois couleurs de l'Afghanistan. Et ce sera toujours le drapeau de mon pays.
Merci Valérie Crova. Victoria Fontan, elle est emblématique des femmes afghanes, cette Marcia couverte de pieds en cap et qui appelle quand même à rester forte.
Absolument, et c'est très important d'établir cette journée aujourd'hui, de se rappeler des femmes afghanes et de penser que chaque jour elles luttent pour continuer à faire partie de la société et pour continuer à vivre tout simplement et à avoir un avenir.
Alors, cette université américaine d'Afghanistan à Kaboul, dont vous êtes la vice-présidente, quelle est sa situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours ouverte? Est-ce qu'on peut y enseigner? Est-ce qu'il reste beaucoup d'étudiants? Comment ça se passe?
Alors aujourd'hui,
et d'étudiantes?
Oui, bien sûr. Donc, nous avons réussi à exfiltrer à peu près 300 étudiants, ce qui est vraiment un tour de force par rapport à la situation actuelle. Nous continuons à donner des cours en ligne. Nous avons une participation d'à peu près 85% de nos étudiants, toujours sachant que c'est très difficile pour eux de prendre leurs cours au jour le jour. Ils ont peur que leurs voisins s'aperçoivent qu'ils parlent anglais, qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont en ligne et qu'ils sont toujours en connexion avec nous. Et de voir le nombre d'étudiants qui continuent de prendre des cours avec nous, ça montre vraiment leur soif d'apprendre et leur soif d'exister.
Quelle est la situation des étudiantes en Afghanistan aujourd'hui ?
Alors, en général, il n'y a plus de professeurs féminines admises et autorisées à travailler dans les universités publiques. Et sachant que les talibans veulent que les femmes, prennent des cours avec des professeurs féminines, eh bien évidemment, sans professeurs, ça veut dire pas d'étudiantes, ça veut dire pas d'accès à l'éducation supérieure, et donc pas de futur. Sachant que dans le monde du travail aussi, on a demandé aux femmes de rentrer chez elles et de donner leur job aux membres masculins de leur famille.
Sauf dans certains secteurs, un peu l'éducation, un peu la santé et encore ?
Voilà, très peu d'éducation. Alors parfois, on va voir des effets d'annonce des talibans qui montrent que telle ou telle école est ouverte aux filles, mais ce sont vraiment des effets d'annonce et il faut les prendre avec des pincettes. Et puis bien sûr, dans la santé, il y a encore quelques médecins féminins et aussi quelques infirmières qui exercent.
Dans le regard qu'ils portent sur les femmes, ces talibans sont exactement les mêmes que ceux d'il y a 20 ans? Ça n'a pas changé?
Absolument, exactement les mêmes. Les déclarations sont les mêmes, donc ils ne vont pas à la confrontation en disant qu'ils vont bannir l'accès des femmes à l'éducation, mais ils vont contourner et faire en sorte que cet accès finalement soit totalement impossible. Oui. Et c'est exactement la même chose que dans les années 90. Et je dirais même que c'est encore pire parce que maintenant ils ont les moyens de leurs ambitions et ils peuvent vraiment établir une répression au jour le jour avec un système de quadrillage de différentes parties des grandes villes qui font en sorte que vraiment les gens sont pistés et les gens sont repérés et ils sont intimidés au jour le jour. le jour aussi.
Alors Emmanuel Macron était l'invité de France Inter ce matin pour parler de la situation des femmes afghanes. Que peut-on faire ? Une des réponses du président, c'est de dire qu'on ne peut pas se mettre à la place des Afghans et choisir leur souveraineté et que la question est celle des négociations en fond dans le cadre de la reconnaissance d'un régime. On peut faire pression, dit-il, pour que l'aide humanitaire arrive toujours. On peut faire pression pour empêcher des contacts avec des groupes terroristes. On peut faire pression pour des droits de l'homme. Est-ce que ça vous suffit, si j'ose dire ?
Je dirais qu'il faut être cohérent. Dès le départ, la communauté internationale avait dit que les talibans, le régime taliban ne serait pas reconnu si Kaboul et si l'Afghanistan étaient pris de force. Or, ça a été le cas. Donc maintenant, soyons cohérents et arrêtons de dire qu'il faut attendre de voir ce que les talibans vont faire, qu'il faut peut-être tempérer pour que les Afghans aient accès à l'aide humanitaire. Ce sont les talibans qui prennent le peuple afghan en otage et qui les mettent dans une situation de devoir avoir accès justement à cette aide humanitaire, d'en être réduit à l'aide humanitaire. Donc, je pense qu'il est très important maintenant d'avoir une cohérence politique et de dire oui ou non et de pas continuer de tempérer et de négocier et d'accéder aux demandes des talibans qui ne sont ni plus ni moins qu'un groupe mafieux qui continue de prendre sa population en otage.
La France est à la hauteur de l'accueil nécessaire ?
Absolument, je dirais beaucoup plus que d'autres pays. L'action d'exfiltration a été absolument incroyable, extrêmement bien organisée. J'ai 7 étudiants qui sont en ce moment en France, dans différentes parties de la France, et qui ont été accueillis merveilleusement bien et suivis au jour le jour d'une façon et dans la plus grande dignité, ce dont parlait bien sûr le président Macron ce matin.
Les étudiantes de votre université, vous êtes toujours en contact avec elles ? Qu'est-ce qu'elles vous disent et est-ce qu'il y a encore des exfiltrations possibles ?
Oui, alors je ne vais pas en dire plus parce qu'on ne veut pas compromettre les efforts. Beaucoup de nos étudiantes sont terrées chez elles, ne sortent pas. D'abord parce qu'il est impossible de sortir sans un membre masculin de la famille. Et puis elles ont peur lorsqu'elles sortent de ne pas pouvoir rentrer chez elles, d'être mariées de force à tel ou tel combattant. Beaucoup d'entre elles se sont mariées pour ne pas justement être mariées de force. Donc bien sûr, ce sont des destins brisés. Et un futur vraiment incertain.
Merci Victoria Fontan d'être venue dans les studios de France Inter. Le prochain rendez-vous de cette journée spéciale avec les Afghanes, c'est dans le flash de 14h, nouveau témoignage. Et puis ce soir, la journée se conclura par un grand concert en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous pouvez réserver sur maisondelaradioetdelamusique.fr et sur franceinter.fr. Vous retrouvez les émissions diffusées depuis ce matin, l'interview d'Emmanuel Macron et d'autres éclairages, notamment celui-ci, 5 façons concrètes d'aider les femmes afghanes. Vous trouverez notamment la liste des associations qui agissent pour elles. Cette journée est aussi à suivre sur les réseaux sociaux et sur Combini, partenaire de France Inter. Le mot-clé, c'est avec les Afghanes. Et donc, dans le cadre de cette journée spéciale, le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé une interview à France Inter. Nous pouvons faire pression, dit-il, tout faire pour que les conditions pour la reconnaissance des talibans et pour que dans le cadre de ces négociations, l'égalité homme-femme soit un poids de pression, le terrorisme donc et les opérations humanitaires. Mais au micro de Léa Salamé, le président a abordé d'autres sujets de politique internationale, notamment le coup de froid avec l'Algérie. Alger a rappelé son ambassadeur en France et interdit le survol de son territoire par des avions militaires français. C'est la conséquence de propos rapportés par le quotidien Le Monde, tenus par Emmanuel Macron lors d'une rencontre jeudi dernier avec des jeunes descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron accuse le régime à Alger d'avoir vécu sur une rente mémorielle après la guerre, de réécrire l'histoire, d'entretenir un discours qui repose sur la haine de la France. Sur France Inter, le président n'a pas nié avoir tenu ses propos plus de 9 mois après le rapport Stora sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Après ce rapport, souvenez-vous, la France a notamment reconnu l'assassinat du militant Ali Boumendjel lors de la guerre d'Algérie en 57. Emmanuel Macron ce matin sur France Inter sur les mémoires de la guerre et les relations avec l'Algérie aujourd'hui.
Ce qui se passe aujourd'hui est une crispation. Moi j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien. Et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Après, nous avons enclenché un travail. Et donc, on se dit des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes. Je ne nous ai pas ménagé avec notre propre histoire. Et je continuerai ce travail. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement. Il y a sans doute des désaccords. Je pense que simplement, nous avons trop de nos compatriotes dont l'histoire est mêlée à l'Algérie pour ne pas embrasser cette histoire et essayer de, en quelque sorte, reconnaître toutes ces mémoires. et de leur permettre de cohabiter. Moi, c'est ça ce qui m'importe. Et donc, il y aura immanquablement d'autres tensions. Ce ne sont que des histoires de blessures. Le problème, c'est que beaucoup de ces blessures sont inconciliables les unes avec les autres. Or, on est tous ensemble dans le même pays. Et donc, on doit avoir un projet national qui nous embarque. C'est mon travail, mais il faut le faire. Voilà, en disant à chacun, vous avez votre place et je reconnais votre part d'histoire. C'est la nôtre, tout entière.
Emmanuel Macron, ce matin avec Léa Salamé. L'interview est à réécouter en intégralité sur franceinter.fr. Et puis, autre passe diplomatique difficile ces dernières semaines avec les États-Unis après l'affaire des sous-marins australiens. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est à Paris. Il a été reçu par le président français. Première rencontre directe avec un responsable américain depuis cette crise. Petit signe de réchauffement. À propos de réchauffement, le prix Nobel de physique 2021 attribué ce matin à deux experts de la modélisation physique du réchauffement climatique, l'américano-japonais Tsukuro Manabe, l'allemand Klaus Hasselmann, également lauréat, le théoricien italien Giorgio Parisi, spécialiste des systèmes complexes, Sophie Becherel.
Oui, puisque vous l'aurez compris, le Nobel est divisé en deux cette année. En pleine crise climatique et 14 ans après qu'Al Gore et le GIEC ont reçu le Nobel de la paix, l'Académie de Stockholm couronne donc les théories qui ont jeté les bases de la modélisation du changement climatique. Le japonais Tsukuro Manabe, 90 ans, a notamment montré dans les années 60, comment l'augmentation du niveau de CO2 dans l'atmosphère correspondait à une hausse des températures à la surface de la Terre. 10 ans plus tard, Klaus Hasselmann a créé un modèle qui relie le temps et le climat. En dépit des grandes variations météorologiques, il a montré qu'on pouvait établir des modèles climatiques fiables. Son travail a été utilisé pour établir la responsabilité des émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le réchauffement climatique. Les systèmes complexes, c'est le deuxième sujet récompensé cette année, précisément les travaux de l'Italien de 73 ans, Giorgio Parisi. Il a apporté, dit l'Académie, des contributions révolutionnaires à la théorie des phénomènes désordonnés et aléatoires. Alors qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de matériaux ou de systèmes sont concernés, le verre, les supraconducteurs avec impureté par exemple, mais on peut aussi dire qu'une fourmilière, un tas de sable, les turbulences de l'atmosphère ou le fonctionnement du cerveau sont des systèmes complexes. Une multitude d'entités en interaction semblant agir de façon désordonnée réalisent à la fin une action commune. Derrière le désordre, Giorgio Parisi a découvert des motifs cachés, c'est pour ça qu'il est récompensé. Si ça vous intéresse, sachez que les cours au Collège de France de cette année de Bernard Derrida ont porté sur ce sujet et ils sont en ligne.
Merci Sophie Becherel. Dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14, Alain Cordier, membre de la commission sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique.
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois ? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée ? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
France Inter aime
la 11e édition du festival Atmosphère. Cinéma, musique, art et science pour un monde durable plus juste, en harmonie avec la nature. Grands films en avant-première, spectacles, rencontres, expositions. Un village des solutions dans une ambiance chaleureuse et festive. Avec Étienne Klein, Reza, Heidi Sevestre, Hélène Courtois, Yael Naïm, Sébastien Follin, Rob Hopkins et bien d'autres. Entrée libre et gratuite. Le Festival Atmosphère du 6 au 10 octobre à Courbevoie et en ligne. Un partenariat France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un nouveau passage pluvieux qui épargne le sud-est.
Oui, c'est plus calme en Méditerranée aujourd'hui. Alors, pas mal de nuages, c'est vrai, ils s'épaississent, mais on aura seulement quelques gouttes. Un risque d'averses orageuses pour le sud de la Corse. Sur le reste du pays, on a des pluies et du vent qui circulent. Alors, ce temps glisse vers les régions allant des Pyrénées, vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est pour cet après-midi. De la Bretagne et du nord de l'Aquitaine vers le centre-Val de Loire et le Limousin, là, vous avez des éclaircies, quelques averses possibles. Et puis, de la Normandie vers le bassin parisien, le nord de la Seine, les averses sont quand même plus fréquentes avec un orage possible et des rafales de vent jusqu'à 80 km à l'heure. Quant aux températures, elles perdent quelques degrés, 15 degrés attendus au Havre, à Dinard, 17 à Paris, à Clermont-Ferrand, 18 à Strasbourg, à Nantes et à Toulouse, 20 degrés pour Marseille et 24 pour Bastia.
Élodie Calac, Météo France, l'invité du 13-14 tout de suite.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
La commission indépendante sur les abus dans l'église a donc rendu ce matin ses conclusions après 2 ans et demi de travail. Et c'est un choc pour une institution incontournable de la société française ces dernières décennies. 216 000 enfants et adolescents ont été agressés par des religieux ou religieuses depuis les années 50. 330 000 victimes en comptant les agressions commises par des laïcs au sein d'institutions catholiques. C'est un phénomène massif. L'Église est l'institution où le taux de violence sur mineurs est le plus élevé après la famille et les cercles amicaux. Alors que faire après ces conclusions terribles? La Commission formule une quarantaine de recommandations. 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions et témoignages. Notre invité jusqu'à 13h45 est l'un des membres de la Commission. Bonjour Alain Cordier.
Bonjour.
Merci de venir dans les studios de France Inter, ancien directeur général de l'APHP, ancien président du directoire du groupe de presse catholique Bayard. À quel moment avez-vous mesuré l'ampleur de ce que révèle ce matin la Commission?
Je voudrais surtout insister d'abord sur le fait que le cheminement de la Commission a été totalement guidé par les auditions de victimes, oui, que nous avons faites. Tous les sujets qui sont abordés dans le rapport sont issus de ce que nous avons entendu des victimes. Et factuellement, quand vous lirez le rapport, vous verrez que chaque partie est précédée d'un verbatim, comme l'on dit, de ce qu'ils nous ont appris. Et donc, l'ampleur, nous l'avons découvert progressivement. Nous n'avions aucune idée arrêtée à l'avance. D'ailleurs, le caractère pluriel de la composition de cette commission explique...
Des théologiens, des sociologues, des juristes, pas de religieux, c'est important de le préciser.
Pas de religieux, pas de victimes au départ, et nous avons travaillé avec elles dans le cadre d'un groupe miroir pour recueillir leur avis sur un certain nombre de recommandations que nous pouvions faire. Mais j'insiste aussi sur le fait que dans cette commission, il y avait des croyants et des non-croyants, des chrétiens et des non-chrétiens, la parité quasiment homme-femme et également un pluriel en termes de tranche d'âge. C'est aussi un point très important.
Que retenez-vous des témoignages que vous avez entendus?
Écoutez, je crois comme l'ensemble de mes collègues, nous avons été frappés par la souffrance, la blessure, mais plus encore par l'empêchement d'être. Je ne trouve pas d'autres mots.
C'est très clair.
Pour le dire. C'est-à-dire que des personnes qui ont été ainsi agressées, notamment dans leur enfance, voient toute leur vie cabossée, brisée, en termes de relations affectives, familiales, sexuelles, y compris en termes de relations professionnelles, telle va découvrir que les souffrances physiques qu'il éprouve depuis plusieurs années s'expliquent par là. Voilà, ça c'est un point majeur.
Et je voudrais qu'on entende Christine au standard de France Inter, si elle est avec nous. Oui. Bonjour Christine.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, j'ai une question courte. Donc je voudrais savoir si la justice allait se saisir de cette affaire. C'est-à-dire si les religieux et les religieuses incriminés allaient être poursuivis, ainsi que toutes les complicités silencieuses dont elles ont bénéficié. Alain, pour l'instant, on n'entend parler que d'indemnisation, oui, et on entend parler aussi de compassion. Mais moi, je ne crois pas que ça suffira pour réparer les victimes, ainsi que je crois que c'est un fait de société.
Alain Cordier.
Ainsi que toute la société.
Merci pour votre question, Christine. Alain Cordier.
Oui, deux éléments. D'abord, la loi s'est appliquée à la Commission comme à n'importe qui. C'est-à-dire que nous avons dû faire, nous avons fait 22 signalements au procureur de la République, comme l'exige le Code de procédure pénale. Ouais. Il faut que chacun en ait bien conscience lorsqu'on a connaissance d'un fait concernant un enfant. Deuxièmement, un certain nombre, malheureusement, beaucoup d'abuseurs sont morts. Donc il n'y a pas de procédure de justice. En revanche, ce qui est très extrêmement important, nous avons évoqué la piste de ce qu'on appelle la justice restaurative, c'est-à-dire la capacité d'une part pour l'Église de reconnaître pleinement sa responsabilité et sa responsabilité en tant qu'institution, pas simplement la responsabilité de tel ou tel individu, mais la responsabilité de l'institution, et de faire en sorte que même s'il y a juridiquement prescription, une enquête puisse être conduite et que aucun sujet ne soit mis sous l'éteignoir.
Ce que disait Jean-Marc Sauvé également ce matin, c'est que vous avez discuté de la question de l'allongement du délai de prescription. Ça ne figure pas parmi les recommandations.
Non, parce que nous nous sommes rendus compte que il y a un piège dans l'allongement de la procédure. C'est que la vérité juridique, parfois, elle a du mal avec la vérité tout court. Tout simplement parce que lorsque vous faites un procès 30 ans après, par exemple, le juge va constater qu'il n'a pas les éléments de preuve. Et donc, on va augmenter la souffrance de la victime. C'est pour ça que nous ne satisfaisons pas de ce constat et que nous avons imaginé, proposé, mais nous sommes inspirés de réflexions qui sont conduites par ailleurs, sur la possibilité par cette justice restaurative, c'est-à-dire de continuer le processus de, non pas simplement de médiation, mais d'abord de reconnaissance du fait et de la responsabilité de l'institution.
Alors, ça implique notamment indemnisation. Les mots de Jean-Marc Sauvé, c'est pour dire il ne peut pas y avoir de forfait. Ai-je bien compris? Cela veut dire qu'il doit y avoir un examen individuel des situations et une indemnisation au cas par cas.
Vous avez parfaitement compris. Nous avons essayé de regarder ce qui se faisait dans d'autres pays et notre conclusion est aboutie à celle-ci. Pas de forfait, une démarche individualisée. Ça ne peut pas être une réparation totale. D'abord, d'ailleurs, il faut se méfier du mot réparation parce qu'on ne répare pas l'irréparable. Mais c'est une question d'indemnisation dont il faut percevoir qu'il ne s'agit pas pour l'Église d'un don. On ne se penche pas vers une personne victime, on ne lui fait pas l'aumône. C'est un dû. Mmh. C'est du fait de sa responsabilité institutionnelle, c'est un dû. Au fond, les victimes ont une créance, en quelque sorte. Mais le point, ce point qui a un aspect financier, évidemment, est important. Il l'est pas forcément pour toutes les victimes, mais il est majeur. Mais plus en amont, c'est d'abord la reconnaissance de la responsabilité.
Ça implique quoi, cette reconnaissance de responsabilité,
Alain Cordier ? Déjà de reconnaître, j'allais dire, et nous concluons notre rapport de cette manière, un peu inspiré par Camus sans doute, de dire que nous sommes révoltés de ce qui s'est passé. Et que cette révolte, c'est ce qui nous permet, au fond, d'agir, de se mettre en mouvement. Bon. Et la reconnaissance de la responsabilité, c'est de reconnaître qu'il y a un caractère systémique. Alors le mot systémique est un peu jargonneux, ça veut dire que c'est tout un ensemble, c'est pas simplement telle ou telle brebis galeuse dans une institution,
qu'il y a une
c'est
forme
tout un ensemble.
De pratique, de culture qui amène au déni et à la couverture de certains criminels.
Nous avons par exemple proposé quatre pistes de réflexion. La première, c'est tout ce qui touche au droit canon, parce que ce droit canon, le processus de justice canonique n'a rien à voir avec ce que l'on connaît dans la justice civile et en particulier au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire la présence de la victime et sa capacité de se défendre, le contradictoire, comme disent les juristes.
Le droit canon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le droit de l'Église et effectivement, les victimes ne sont pas présentes.
Les victimes ne sont pas présentes, ne savent même pas comment a été traité le dossier. Deuxième élément important, c'est bien sûr la question de la formation des prêtres, des religieux, du discernement des vocations.
Je voudrais glisser une question à ce sujet. Avez-vous l'impression qu'au fil de la perte de vocation, au fil des décennies, l'Église a été moins regardante sur les profils et qu'on a intégré au fond tous ceux qui étaient prêts à s'engager sans regarder davantage que ça?
Alors il faut regarder les choses de façon précise. On a distingué trois périodes. 1950-1970, ça n'est pas ce que vous dites. Okay. Probablement de 70 à 90, oui, le phénomène a pu être celui-ci en partie, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de départs de prêtres au début des années 70 et ça n'est plus le cas depuis les années 90. Mais j'insiste encore une fois, nos quatre pistes, la réforme du droit canon, deuxièmement, insister sur la qualité de la formation et du discernement dans le recrutement, si je puis dire. Troisièmement, la gouvernance de l'Église, et là il faut marteler le fait que on ne sortira pas du cléricalisme sans les femmes, on ne sortira pas
Donc,
de cette situation
les femmes à
et les laïcs dans la prise de décision, c'est-à-dire de bien distinguer le ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre et le pouvoir du gouvernement. Et enfin, quatrièmement, de s'intéresser à tous les dévoiements possibles liés probablement à un tabou sexuel trop important.
Et la confession ne peut plus permettre de couvrir des crimes. Ça n'est plus le cas en principe, mais manifestement, ça l'est toujours. Et Jean-Marc Sauvé l'a rappelé. Il a dit également que le problème n'était pas derrière nous. Autrement dit, il y a encore des agressions. Il y a une question que vous n'avez pas posée, que la commission n'ouvre pas, et c'est Jacques au standard. Non, c'est Patrick au standard qu'il faudrait la poser. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Ma question est simple. Ne pensez-vous pas que l'obligation de célibat des prêtres soit une des causes de la concentration de pédophiles dans l'Église catholique? Parce qu'il faut bien appeler des pédophiles par rapport à des personnes qui ont commis ces actes. Donc le problème de célibat va-t-il être traité, étudié?
Merci pour votre question Alain Cordier. Vous allez loin dans les recommandations de réorganisation interne de l'Église, mais cette question n'est pas ouverte par la Commission.
Cette question est ouverte par la Commission au sens où, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le principal lieu d'agression sexuelle est la famille, et par conséquent d'hommes mariés. Donc nous ne sommes pas dans... il n'y a pas une conséquence obligatoire du célibat vers une situation de pédophilie. En revanche, ce que nous notons, c'est le risque que fait poser la position de célibataire dès lors qu'elle est située en quelque sorte comme un héros, comme quelqu'un qui est en surplomb. Et donc nous insistons sur, au fond, l'éthique nécessaire liée au célibat, de réfléchir à tout ce qui est situation de risque dès lors que l'on met quelqu'un sur un piédestal lié à son choix de vie, à ses engagements. Et nous ouvrons également la réflexion en disant qu'il faut poursuivre ce qui a été réfléchi au synode sur l'Amazonie où certains se sont posé la question de l'ordination d'hommes mariés. J'insiste beaucoup sur cette notion de surplomb. Je crois que vraiment le message qu'il faut entendre, c'est que dès lors que l'Église ou tel fondateur d'une communauté nouvelle, ou tel prêtre, ou tel laïc en situation de responsabilité, est en situation de surplomb sur les autres. Au fond, qu'il est idolâtré, qu'il est admiré, eh bien, il y a un risque possible. Et donc, l'important, c'est aujourd'hui de savoir, d'être en alerte, et d'avoir cette culture de ce qu'on appelle dans toutes les associations du monde, le culture de l'audit interne, de la cartographie des risques, et d'évaluer les mesures prises.
Très concrètement, beaucoup de gens appellent les prêtres mon père. Ce qui fait écho à ce que vous venez de dire. Est-ce que par exemple, une mesure très concrète, ce serait pas de dire arrêtons ce type d'appellation qui entretient une confusion?
Je pense que la confusion, elle vient du fait que mon père fait effectivement penser à une relation incestueuse, c'est tout à fait clair, d'un point de vue symbolique. Peut-être que là, c'est la réflexion qu'il faut engager sur, et les évêques eux-mêmes, je crois, ont commencé à le faire, c'est au fond de réfléchir à cette notion de pouvoir sacré. Là encore, c'est le surplomb. Et donc, c'est plutôt la fraternité qui devrait être le mot d'ordre en l'occurrence, sur lequel il faudrait, à mon avis, beaucoup plus insister.
Dernière question, celle de Jacques. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour. Ma question sera simple. Je commence à entendre l'assourdissant silence du personnel politique. Est-ce qu'il serait possible d'avoir quand même quelques réactions de la part de ce personnel, le personnel de tout bord, évidemment?
Merci pour votre question Alain Cordier. Est-ce que vous souhaitez que le personnel politique s'empare de votre rapport?
Je crois que c'est un problème qui concerne l'ensemble du pays, puisque l'enquête en population générale qui a révélé les 330 000 victimes dont vous parlez est la même enquête qui dit qu'il y a 5,5 millions de personnes aujourd'hui qui ont été atteintes d'agressions sexuelles en France, 14% des femmes, 6% des hommes. Et par conséquent, c'est un problème qui est effectivement massif. Et à trois reprises dans le rapport de la CIAS, nous passons le témoin à la commission dite Civise, qui est maintenant en charge de réfléchir à l'ensemble des lieux de socialisation, comme l'on dit, y compris la famille.
Après ces 2 ans et demi de travaux, pensez-vous que l'Église puisse réellement et profondément changer, Alain Cordier ?
Je pense que l'Église a en elle des ressources pour le faire, dès lors qu'elle elle en revient à sa source profonde, c'est-à-dire à l'Évangile.
Merci d'être venu dans les studios de France Inter. Je précise que Jean-Marc Sauvé sera demain l'invité de Nicolas Demorand et Léa Salamé sur France Inter. Merci Alain Cordier. 13h44.
France Inter, le 13-14.
Et bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le vif de l'histoire, un historien pour nous aider à comprendre la trame historique des révélations de la Commission Sauvé.
Oui, parce que c'est le mardi des cendres pour les catholiques aujourd'hui, comme il y a le mercredi des cendres, la veille du carême. Claude Langlois.
On vous retrouve dans 10 minutes dans le feuilleton suite d'un de nos rendez-vous de l'année pour suivre la campagne électorale. 5 Français dans la campagne, après l'agriculteur David hier, l'architecte Camille. Et nous les retrouverons tout au long des mois à venir. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Un physicien à votre micro en ce jour de Nobel de physique, c'est Christophe Galfard qui travaille inlassablement sur l'origine de l'univers et les trous noirs. Il est également écrivain.
Auteur de plusieurs best-sellers internationaux et puis il anime tous les mois des conférences avec MK2 Institute. Et c'est d'un titre du percussionniste indien Zakir Hussain que Christophe Galfard a choisi de me parler. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment une chanson.
Pour moi, c'est un son de la nature, il me semble, transformé par des humains. Et qui devient une sorte de chant dans lequel nature et humanité s'unissent. Je sais pas, c'est un son du désert, disons. Un son humain du désert.
Que vous avez découvert à quel moment ?
Que j'ai découvert en Égypte, dans le désert égyptien. J'étais avec une amie et d'autres personnes que je ne connaissais pas et qui ne parlaient pas la même langue que nous. Et avec qui nous nous entendions pourtant très bien. On était quatre au milieu de nulle part, avec un langage qui n'était pas celui des mots, un langage qui était celui peut-être du corps, peut-être du ressenti ou de la musique justement.
Ça ressemblait à quoi ? Ce que vous aviez autour de vous quand vous avez découvert ce chant ?
C'était la nuit, donc l'univers était séparé en deux. Il y avait un noir étoilé au-dessus et un ocre vallonné, mais pas tant que ça, donc on pouvait voir suffisamment loin. Et un feu qui mettait une sorte de lumière terrestre, minuscule, humble, par rapport à ces millions d'étoiles qui étaient au-dessus de nous. Il y avait une sorte de voûte céleste immense, qui là, avec cette musique-là, m'a complètement transporté et m'a fait toucher quelque chose que j'adore dans l'humanité, qui est la possibilité de voyager bien au-delà de son propre corps, bien au-delà de notre propre condition, et de se projeter dans une découverte, une aventure qui nous amènerait même au-delà de la Terre. Alors quand on a en plus le cadre du désert, c'est exceptionnel.
Parti loin là en deux minutes. Le titre de ce morceau, Frédéric, c'est justement Nomades, extrait de l'album Music of the Deserts.
Musique qui emmène donc Christophe Galfard plus loin encore que le désert.
Ça me fait aussi penser au langage scientifique, au langage mathématique utilisé en physique par exemple, qui est un langage symbolique, extrêmement puissant, qui laisse une liberté à l'interprétation et qui est partagé par toutes les personnes qui font de la physique. C'est un langage qui est universel, comme la musique. On n'en a pas tant que ça, des langages exprimés qui peuvent être partagés, quelles que soient nos cultures, quel que soit notre parcours.
Elle vous met dans quel état, cette musique-là ?
Que ce soit lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on écrit un livre, lorsqu'on est concentré sur une forme quelconque de création, un moment, la conscience de notre corps disparaît plus ou moins. Et on se retrouve dans un monde d'abstraction dans lequel on arrive à se mouvoir. La science permet ça, avec un langage, comme on disait tout à l'heure, et la musique, pour le musicien, je pense, permet ça. Et pour celui qui écoute, en l'occurrence moi, lorsque j'écoute ce chant-là, il me permet d'aller plus vite dans cet état-là, de rêverie, éveillée et plus ou moins maîtrisée, que personnellement j'adore.
Nomads, Zakir Hussein, c'était donc Frédéric, le choix du physicien Christophe Galfard.
Qui animera un nouveau cycle de conférences au week-end dans deux cinémas MK2 parisiens sur le thème « Trous noirs et dimensions parallèles ».
À demain.
À demain.
Retour sur Terre et le feuilleton premier volet de notre série 5 Français dans la campagne. Avez-vous voté en 2017? Pour qui? Et cette année, quelles sont vos intentions? Quels sujets vous intéressent? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'opinion? Ces questions, nous les soumettons à 5 Français et nous les retrouverons régulièrement, ces Français, au fil de la campagne. Hier, nous avons entendu David, agriculteur de 43 ans. À 6 mois de l'élection, il penche pour Valérie Pécresse. On verra si cela évolue. Aujourd'hui, Camille, 47 ans, au micro de Laurence Perron.
Là, on est dans la presqu'île de Lyon, on est place Gaïtan. Je suis Camille, 47 ans. Je travaille dans une structure associative à Lyon, dans le milieu du bâtiment, de la construction, de l'urbanisme.
Tu te souviens pour qui tu as voté la première fois et est-ce que tu l'as fait en croyant que vraiment ça allait changer quelque chose?
Je crois que la première fois que j'ai voté, je pense que j'ai dû voter contre le référendum de Maastricht. La première fois que j'ai voté pour une présidentielle, je pense que c'était pour la réélection de François Mitterrand. Donc, voilà.
Et puis après, tu as voté en ton âme et conscience aussi après, encore pour les socialistes. Donc en fait, tu as souvent voté pour des socialistes en vrai.
Je pense que j'ai voté en fait comme votaient mes parents, donc bien sagement. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon courant de pensée. Donc j'ai été tenté par à la fois le courant écolo, puis petit à petit pour des courants un peu plus radicaux, parce que je trouvais que ça, voilà, il n'y avait pas assez d'ambition dans la transformation de la société. Donc effectivement, j'ai voté aux dernières élections présidentielles au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. Puis j'ai rallié par défaut Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen. J'ai voté vraiment par défaut, c'était pas du tout mon intention de plébisciter Emmanuel Macron et de le porter au pouvoir, mais entre la peste et le choléra, ou enfin entre le Covid et le choléra, bon, je préfère quand même le Covid, quoi. Mais c'est sûr que ça m'a coûté, d'autant qu'effectivement, moi j'avais voté aussi Jacques Chirac quelques années plus tôt, aussi pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et bah là, pour le coup, je crois que la maxime jamais 203, non, ça se répétera pas. Je pense que j'ai pas envie de faire barrage à qui que ce soit. J'ai envie de voter. Alors si je vote, parce que je suis pas encore sûr de voter. À partir du moment où j'ai eu mes 18 ans de droit de vote, j'ai toujours voté. Mais là, c'est la première fois que je me pose la question de vraiment voter aux prochaines élections, parce que un peu trop échaudé, quoi, par toutes ces années où il a fallu mettre un peu son poing dans sa poche et voter par défaut. Moi.
Alors ton poing, il est un peu vert aussi, je crois.
Oui, en fait, aucun gouvernement n'a vraiment porté les enjeux environnementaux à l'échelle où, à mon sens, il devrait être. Bon, c'est encore un espoir que j'ai, même si je pense qu'on est déjà dans le mur.
Alors, le paysage politique sur cet arc écologiste humaniste, tel qu'on l'appelle, est en train de se stabiliser. Nous avons désormais comme candidat Yannick Jadot, candidat pour les écologistes. Il y a l'écologiste socialiste Hidalgo, telle qu'elle se définit, Fabien Roussel pour la question sociale, le communiste, et Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise.
Oui, et je pense que ce qui me ferait voter, c'est une entente, une coalition de cet arc-là qui va de la gauche à l'extrême gauche, en passant par les écologistes.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié Philippe Poutou pour le NPA.
Oui, mais je dirais pas que le Parti Socialiste aujourd'hui remplit les cases pour moi de ce côté-là. Mais en tout cas, j'attends que la gauche puisse se rassembler derrière une candidature unique avant le premier tour. Là, aujourd'hui, la seule raison qui me ferait aller voter au premier tour, c'est qu'il y a un vrai rassemblement des forces de gauche derrière une seule candidature. Voilà, qui est vraiment une chance de porter au pouvoir des valeurs de gauche. Alors ça sera peut-être pas des valeurs purement écologistes ou des valeurs purement sociale, mais en tout cas, ça sera une vraie impulsion à gauche en 2022.
Le feuilleton, nous reste à entendre 3 de nos 5 Français. Sylvana, qui est coiffeuse dans le Nord, Marie-Claudine, retraitée dans la Nièvre, et Simon, qui est chômeur et habite Colmar. Ce sera dans les jours à venir.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire pour donner de la profondeur historique aux conclusions de la commission Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Jean Lebrun, au début de l'année, un grand spécialiste de l'histoire du catholicisme a publié un livre intitulé « On savait, mais quoi ?» la pédophilie dans l'Église depuis la Révolution.
C'est Claude Langlois, peut-être le meilleur connaisseur du catholicisme au féminin, et de Thérèse de Lisieux. Il raconte d'ailleurs un grand moment de rupture qui se produit en 2000 dans l'enceinte du Carmel de Lisieux, où a vécu Thérèse et où l'évêque du lieu vient s'épancher. Monseigneur Piquant a cru devoir conserver un rôle pastoral à un prêtre qui se disait guéri de sa pédophilie. L'évêque va être condamné à une peine avec sursis pour non-dénonciation de criminel. Il ne comprend pas que l'agression sexuelle contre les enfants devient le mal absolu, vous avez dit, pédocriminalité. Monseigneur Piquant a pourtant pratiqué la confession, il n'est pas né de la dernière pluie, il sait ce qu'est la nature humaine. Mais dans son modèle, la victime n'a pas encore de place. La tradition chrétienne, en effet, consiste à écouter le coupable à la recherche de sa rédemption. Et la culture catholique institutionnelle invite d'abord à protéger l'Église, qui, enseignant les vertus familiales et le contrôle de la sexualité, doit taire les méfaits de certains de ses serviteurs qui pourraient devenir un obstacle à son enseignement.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle ignore ses méfaits. Et Langlois étudie les dispositifs qu'elle crée en son sein pour traiter les prêtres indignes, minoritaires, dans un clergé plus fourni qu'aujourd'hui.
Faut périodiser, comme vous le disiez à l'instant avec Alain Cordier. Alors revenons à l'époque des hautes eaux, les chiffres des ordinations, au lendemain de la Deuxième Guerre, ont retrouvé ceux d'avant la séparation de 1905, 1400 par an. Beaucoup, à partir des années 60, choisiront de quitter le sacerdoce pour se marier. Claude Langlois observe que l'Église acceptera souvent d'organiser leur départ comme s'il lui était resté assez de ressources pour se permettre une purge. Mais la pire des difficultés va en réalité surgir chez ceux qui restent. Je me souviens de ce vieux recteur breton qui ne croyait plus à grand-chose, mais qui avait peur de ne plus pouvoir faire fumer sa soupe s'il rompait. De ce curé dynamique qui me donnait rendez-vous dans un café dissimulé derrière la gare pour me révéler son ardente vie homosexuelle. L'institution parlait de prêtres fourvoyés. Elle se demandait sincèrement que faire d'eux. Alors Claude Langlois étudie les lieux qu'elle a créés à leur intention, notamment le secours sacerdotal devenu entraide sacerdotale. Une clinique fut ainsi consacrée aux cas difficiles près de Cholet, dans une région que vous connaissez, hein, Bruno, une région de chrétienté vive dont on attendait qu'elle eût le même effet sur les prêtres perdus que l'air de la montagne sur les tuberculeux. Mais cet établissement renonça bien vite à la psychanalyse, à beaucoup de psychothérapie, de peur de mettre en danger la foi des patient et on préféra parier sur le réarmement moral et on a mis donc une armure de plus sur ceux qui voulaient dissimuler les mouvements de leur corps.
En réalité, la commission Sauvé en parle, peut-être fallait-il être plus vigilant au moment du recrutement.
Oui, mais c'est que les chiffres des vocations plongèrent et les catholiques avaient espéré une régénération par le Concile Vatican II et c'est le contraire qui s'est produit. De 1400 ordination chaque année après la libération, on est passé à 100 et les évêques ont colmaté les brèches dans leurs dispositifs paroissiaux dans les années 80-90. Ils ont davantage négligé la question des prêtres indignes qu'à l'époque des hautes eaux. Et comment aurait-il pu fermer la porte des séminaires aux jeunes gens immatures alors qu'il y avait tant de postes à fournir?
Claude Langlois n'a pas dans son livre le rôle de présenter des solutions, c'est ce qui est demandé à la commission Sauvé.
Il note simplement que la direction de l'Église de France s'est tout à fait préparée, un peu comme la société de sauvetage en mer qui forme une flottille d'urgence pour tant de dérèglements climatiques ecclésiales. Et son capitaine, le président de la conférence épiscopale, a été nommé et préparé uniquement dans cette perspective. On va voir comment fonctionne la communication de crise.
Claude Langlois, on savait, mais quoi, c'est publié par les éditions du Seuil. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel est le programme?
Et les conséquences catastrophiques justement de l'écologie sur notre bien-être et comment y faire face?
À tout de suite.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Ginette Varini, à Nancy, nous dit pourquoi.
J'aime pas qu'on me montre 15 paires de lunettes. Et mon opticien me connaît et il me montre immédiatement les produits qui me conviennent bien. Et il se trompe pas. Et pour les verres, c'est pareil. Et il me propose les verres qui m'apportent le plus de confort. Et d'ailleurs, pour les verres progressifs, je n'ai eu aucun problème d'adaptation.
Jean-Marc Varambourg, l'opticien Optique 2000 de Madame Varini, à Nancy.
Nous sommes certifiés
Fias Nord. Nous sommes opticiens diplômés. Pour nous, il reste essentiel de bien conseiller nos clients dans le choix de leur monture et des verres d'origine française, sans jamais oublier leur budget. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tous leurs papiers.
Alors, Madame Varini, contente d'Optique 2000?
Oui, absolument. Et en plus, il s'occupe de tout mon dossier.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Le 6 octobre, la Massif est partenaire de la Journée nationale des aidants. Retrouvez les événements organisés par la Massif sur le site aveclesaidants.fr.
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
Il est 14h.